What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York.
Eh bien, bonjour Gwen, bonjour, vous êtes bien sur rdwa.fr 107.5, c'est l'émission de cinéma de Gwen.
Et
bonjour.
De Hugo.
Surtout de Gwen, il a les droits.
Non.
Exclusif.
Oui,
eh bien aujourd'hui, comme l'a annoncé Gwen, nous allons faire la célèbre ville, New York.
New York City, sur le Hudson, comme disait l'autre.
Oui, allez, dépêche-toi.
Donc, je fais une grosse présentation de la ville, enfin une grosse.
Je reviens dans 40 minutes.
Voilà, c'est ça. Donc, New York City, qui est considérée comme, pour beaucoup de monde, comme la capitale du monde, puisqu'elle est quand même le siège de l'ONU. La patrie de Robert De Niro, d'Al Pacino, de Scarlett Johansson, d'Oliver Stone, de Monsieur Romero, dit Monsieur Zombie, et bien d'autres. Donc, en fait, elle se divise en 5 comtés. Le Bronx, voilà, donc connu pour le Bronx. New York, le quartier de Manhattan. Le Queens, le quartier de Queens. Le comté de King, Brooklyn. Et enfin, Richmond, la Staten Island. Alors, le Bronx, évidemment, qui n'est plus si pauvre que ça, puisqu'il y a une grosse politique de la ville et qui est là où il y a le Yankee Stadium. Donc, les fameux New York Yankees. Manhattan, évidemment, c'est le quartier le plus riche, hein. Et puis le Queens, c'est là où qui est plus résidentiel et industriel. C'est là où il y a les deux aéroports JFK et LaGuardia. Et c'est aussi là où se joue l'US Open. C'est là où il y a Flushing Meadows. Donc c'est là où ça se joue. Et c'est là où il y a aussi le stade des New York Mets. Brooklyn, c'est le quartier le plus peuplé puisque c'est là où il y a le comment ça s'appelle le plus de résidences. Et donc Richmond, évidemment, c'est le quartier le plus éloigné puisqu'il est sur le continent. Donc le maire, c'est Michael Bloomberg.
Depuis 2002.
Voilà, c'est ça. Il a une population de 8 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée des États-Unis puisque Los Angeles n'a que 3 millions. Que 3. Voilà. Alors il faut compter avec son agglomération. Elle compte 19 millions et elle fait partie de ce qu'on appelle la mégalopole de Washington. Donc de Boston jusqu'à Washington. Il y a une densité de 6732 habitants au kilomètre carré. Les surnoms de la ville, la Big Apple, évidemment.
La grosse pomme.
Voilà, c'est ça. The city that never sleeps.
La city où on dort jamais.
Voilà, c'est ça qu'on connaît dans la célèbre chanson New York, New York. Voilà, donc c'est une ville cosmopolite puisqu'on a le quartier de Little Italia, Chinatown, Spanish Harlem, dit El Burrito. Là où est née la salsa et puis aussi Little Odessa, le quartier juif polonais. Les coins les plus connus de New York, Times Square, Crossroads of the World, Broadway, le quartier des théâtres, le quartier financier évidemment avec Wall Street, dans the Lower Manhattan, parce qu'il y a the Lower and the Upper. Donc foyer de la bourse de New York, le futur centre financier, the World Trade Center, et évidemment the Metropolitan Museum of Art, the Met, qu'on en verra dans plusieurs films aussi, de Brooklyn Museum, de MoMA. Tu connais la MoMA ? La MoMA, c'est The Museum of Art Modern. De Lincoln Center, de centre culturel sur l'île de Manhattan, dans The Upper West Side, qu'on parlera aussi dans d'autres films.
Liberty Island.
Voilà, c'est ça. Oui, Liberty Island, où il y a la fameuse Statue de la Liberté, c'est ça.
Construite
par
la
évidemment,
France.
Et évidemment, les universités Merci, de Eiffel, la ville de New York, de Rockefeller, de Columbia. Il y a deux grands bâtiments.
Central Park.
Oui, c'est ça. Central Park.
Il faut le dire.
Oui, j'allais y dire. Il y a deux gros bâtiments qui sont très connus, évidemment. Il y en a deux en moins.
L'Empire State Building.
L'Empire State Building.
Le Rockefeller.
Voilà, ça aussi. Et The Chrysler Building.
Ah, il y en a trois.
Ouais, donc on verra dans deux films aussi. Voilà, l'Empire State Building, avec ses 443 mètres avec antenne, hein, était considéré pour longtemps comme le bâtiment le plus long. Grand, évidemment. Et puis il y a aussi Ellis Island, hein, Ellis Island qui est très très connu, puisque c'était le passage obligé des immigrants du 1er janvier 1892 jusqu'au 12 novembre 1954. Donc avant, ça se passait à Fort Clinton, mais évidemment, les gens du cru détestaient que ça fasse un peu trop de bruit et d'odeur. Comme
tu veux dire qu'ils faisaient le tri, là ?
Oui, ouais, c'est un... Avant, ça se faisait donc à Fort Clinton, mais bon, il y avait des adeptes de Jacques Chirac, donc le bruit et l'odeur, ça les dérangeait. Donc c'est passé à Ellis Island. Il y a 12 millions de personnes qui sont passées par Ellis Island, quand même.
Maintenant, c'est une Guantanamo ?
Voilà, c'est ça. Non, non, ça c'est pour les indésirables. Donc voilà, donc c'est une présentation sommaire. Évidemment, on parlera de certains quartiers un peu plus explicitement dans certains films. Voilà.
Nous, si on a le temps.
Voilà.
Donc, je peux là ? Oui. Merci. Merci pour cette présentation très détaillée. Surtout
oui,
la mégalopole. Merci.
Oui, c'est ça.
Les forces, ouais. Oh, je comprends que tu sois dans Alpes Magazine. Alors, la ville de New York, plus qu'aucune autre grande cité américaine, moi je vais répéter tout ce qu'il a dit. Oui, bénéficie d'une place particulière dans le cinéma américain. Jérôme Charine en a dénombré plus de 80 qui se déroulent dans l'agglomération des années 30 à nos jours et dans les genres les plus divers. Mmh. La comédie, le film policier, la comédie musicale, le film fantastique. Parmi les autres villes, on peut quand même citer aussi San Francisco où se déroule Vertigo d'Alfred Hitchcock, Chicago, qui apparaît dans de nombreux films aussi, de gangsters comme Scarface de Howard Hawks. Bah, oui. Et de plus en plus, San Francisco qui sert de cadre aux aventures de l'inspecteur Harry. C'est bien. Un ami qui vous veut du bien. La cité donc new-yorkaise s'est d'abord imposée au cinéaste par ses qualités photogéniques. Ces interminables donc gratte-ciel constituent un arrière-plan imposant. Leur ligne verticale permet toutes sortes de combinaisons dans l'espace du plan. Alors comme par exemple dans le générique de La mort aux tous d'Alfred Hitchcock. Hein. Ce décor impressionnant est bien mis en valeur dans deux séquences légendaires. Dans West Side Story de Robert Wise, 1961, la caméra survole la forêt des immeubles new-yorkais avant de plonger sur le quartier du West Side où va se dérouler l'action du film. Manhattan hein, de Woody
Allen.
Merci, 1975, commence par une longue série de plans généraux de gratte-ciel pris sous différents angles avec en fond sonore Rhapsody in Blue de Gershwin. New York a aussi inspiré bien des décorateurs qui ont repris sous divers avatars ces paysages géométriques. La cité futuriste de Metropolis hein, dans le film de Fritz Lang en 1926. La ville de Gotham City dans Batman.
Oui, Batman, oui. Tout
Batman,
à fait,
hein.
Oui.
Réalisé par Tim Burton en 1989.
Oui, même celui de Christopher Nolan, hein, tu m'excuseras,
mais
enfin.
Mais la représentation de New York est ambiguë dans le cinéma américain. Elle est la ville des paradoxes, des extrêmes. Tout y est possible. Le succès, l'argent, l'immense fortune, les amours spectaculaires, les crimes abominables, les échecs homériques.
Homérique. Oh, comme Homer Simpson ?
Non, lui là en haut. Elle est d'abord le symbole des promesses du rêve américain. Elle constitue la première étape obligée pour les immigrants, comme l'a dit Gwen, venus de tous les coins de la planète s'installer dans le nouveau monde. C'est la Statue of the
Liberty.
C'est bien devant Manhattan.
Oui.
Que découvre d'abord L'immigrant de Charlie Chaplin, 1917, ou le jeune grec.
Oui, parce qu'il y a une grosse.
D'America, oui. America, dans le film réalisé par Elia Kazan en 1963. Aussi, New York est le lieu où cohabitent et, parfois, fusionnent les peuples du monde. Presque toutes les communautés et leurs quartiers ont eu leur film. Les Juifs dans East Street, réalisé par Johan Silver, 1975, ou. Dans une étrangère parmi nous de Sidney Lumet, 1991. Les Italiens de Little Italy, aussi dans plusieurs films de Francis Ford Coppola et de Martin
Scorsese.
Yeah. Les Chinois de
Chinatown.
Dans l'année du dragon de Michael Cimino, 1985. Les Russes. Cimino ?
Cimino.
Bon, d'accord. Les Russes de Brighton Beach dans Little Odessa de James Gray, 1994. Mm. Et bien sûr, les Noirs présents, par exemple, dans tous les films de...
Ben, de Spike Lee.
Bien, il est fort, ce Gwen. Il est dans Alpes Magazine, toujours. C'est aussi à New York que se trouve le pouvoir économique. C'est dans cette ville qu'on peut réussir les ascensions les plus fulgurantes, en particulier dans le secteur financier. La puissance de l'argent concentré dans le sud de Manhattan a été souvent évoquée dans le cinéma américain, comme dans...
Wall Street.
Bien, d'Oliver Stone, 1987. Ou dans Working Girl de Mike Nichols, 1988. Les Yuppies aussi de toutes les époques affichent leur insolente réussite dans les quartiers huppés comme celui de Upper West Side, ainsi qu'Audrey
Hepburn.
Merci, qu'on avait parlé la semaine dernière dans Diamant sur canapé de Blake Edwards en 1961. Tom Hawks dans Le bûcher des vanités de Brian De Palma, 1991. Mais la ville de New York est aussi dans le cinéma américain le lieu de tous les dérèglements. Elle concentre sur elle toute l'animosité anti-urbaine de l'Amérique. La fiction américaine a toujours fait de la ville un lieu de perdition, synonyme de réussite matérielle, certes, mais aussi et surtout d'échec spirituel. Le citadin, vu par Hollywood, est un être qui étouffe. Né au pays des grands espaces, il ressent l'appel du large. Hein. C'est Michel Ciotta qui disait ça. Comme New York est la ville américaine par excellence, elle est vite devenue la cible idéale. Déjà, le pouvoir urbain, hein, police, classe politique, locale, presse, etc., est décrit comme foncièrement corrompu et violent. Plusieurs films des années 1950 décrivent ainsi la métropole américaine, comme dans L'enfer de la corruption, hein, d'Abraham Polonsky. Faut pas se tromper, là, c'est Polonsky. 1948. La cité sans voile, hein, de Jules Dassin, 1948.
Oui, le père de Joe. Oui,
oui, c'est vrai. Lui aussi, il a fini sur Macadam.
Oui.
Ou Le grand chantage d'Alexander McKendrick, 1957. Plus récemment, hein, Sidney Lumet a consacré plusieurs films sur ce thème et City Hall, réalisé par Harold Baker, 1995, reprend le sujet. C'est une allusion à peine voilée à la gestion de la ville par le maire Ed Koch. La réussite insolente de certains s'accompagne d'une misère extrême, dénoncée dans plusieurs films, en particulier ceux des années 30, hein, The Bowery de Raoul Walsh en 1933, ou Rue sans issue de William Wyler en 1937. Et on ne manque pas d'insister sur la dangerosité de certains quartiers. Dans deux films récents, on retrouve la même situation. Un Yuppie, donc plongé dans l'enfer des bas-fonds. Tom Hawks dans Le Bronx, hein, dans Le bûcher des vanités. Griffin Dunne dans Soho, dans After Hours de Martin Scorsese, hein, et le monde des marginaux drogués, freaks en tout genre qui peuplent ces lieux malfamés et souvent montrés à l'écran, avec parfois une certaine complaisance. Donc cette faune urbaine plus ou moins pittoresque apparaît dans Macadam Cowboy de John
Singer.
C'est bien, 1969. Panique à Needle Park de Jerry Schwartzberg, 1971. Ou New Jack City de Mario Van Peebles, 1991. Cette cité donc infernale, hein, est souvent le cadre de récits cauchemardesques. C'est l'Empire State Building, hein, qu'escapade King Kong.
King Kong, ouais.
King Kong. Dans le célèbre film de Miriam C. Cooper et Ernest Bay. Pourquoi j'ai toujours les noms compliqués à dire, moi? Bon, 1933, hein, dans la version de 1976, le monstre choisit le World Trade Center. Dans New York 1997, hein, 1981, hein, de John Carpenter, hein, imagine un Manhattan en proie à une criminalité galopante et transformé en prison de haute sécurité. Mais est-ce de la science-fiction, mon petit Gwen? New York, donc, est même parfois punie, hein, pour ses péchés. Elle est ainsi rayée de la carte par une explosion atomique dans Failsafe de Sidney Lumet, 1964, ou dans La planète des singes de Frank Schaeffer, 1968. Dans les années 70, je fais l'émission tout seul aujourd'hui. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs réalisateurs qui ont vécu et vivent encore à New York, hein, ont proposé des visions plus personnelles de la métropole américaine. On va commencer par le plus grand.
Oui.
Le meilleur. D'accord. Goldorak. Non. Woody Allen, donc, semble par excellence l'Homo Manhattanus.
Oui, tout à fait.
Ah, toi aussi, tu le connais. Donc, il est né et a vécu dans le quartier de Brooklyn. Il habite maintenant au cœur de Manhattan. La plupart de ses films s'y déroulent. Hein, Annie Hall, hein, 1977, hein, puisque tu en avais parlé la semaine dernière.
Oui, voilà.
Manhattan, 1979.
Effectivement, donc, c'est le scénariste Isaac Davis qui a deux amours. New York et Tracy, une jeune adolescente. Alors évidemment, dans ce film, on peut voir le Russian Tea Room, le Central Park, obligatoirement, la 5e Avenue, Park Avenue, le Muséum d'Histoire Naturelle et le pont de Kingsborough de nuit, le long de la East River, qui est évidemment
le fameux plan,
c'est ça. Donc évidemment, comme tu disais, c'est vraiment une déclaration d'amour à sa ville.
Merci. Donc Broadway, Danny Rose, hein, 1984, Anna et ses sœurs, 1986, Radio's Days, 1987, Meurtre mystérieux sur Manhattan.
Oui, tout à fait. Oui,
1993,
oui.
Tout le monde dit I love you, 1997. Les escapades de ces personnages en dehors de New York sont rares. On peut signaler quand même le divertissement bucolique de comédie érotique d'une nuit d'été, réalisé en 1982. Ces infidélités à la grosse pomme se finissent souvent assez mal, on l'a vu. Dans Annie Hall, le héros du film fait une courageuse percée à Los Angeles qui se termine par une crise existentielle.
Ben oui, parce que de toute façon, c'est le symbole de l'humour juif new-yorkais.
Oui. Isaac Davis dans Manhattan, interprété par le cinéaste, ne peut fonctionner en dehors de New York. Le réalisateur a avoué sa fascination pour sa ville, mais c'est un amour sélectif. Sa géographie de New York se limite à un quartier bien défini, en gros, le Upper West Side, chez les riches, quand même, il faut
dire. Tout à fait, oui.
Entre la 70e rue du nord et la 53e au sud, et la 6e avenue à l'est et la 2e à l'ouest, pour les gens qui connaissent et qui y sont allés.
Voilà.
Donc cet espace aligné est balisé par quelques endroits clés. Le Lincoln Center, le restaurant Helen's, Broadway, les magasins Bloomingdale. Le point de vue de Woody Allen est aussi empreint de nostalgie. J'ai une vision romantique de cette ville, dit-il. Je l'ai toujours aimé comme un bras...
Comme un bras ?
Non, un membre. Un membre. C'est nouveau, ça. Un membre de la famille dont on a tendance à souligner les vertus et gommer les défauts. Aussi, il avoue bien volontiers avoir cherché à arranger les choses. À propos de Manhattan, Woody Allen explique. J'ai tout fait pour rendre la ville délibérément séduisante. Je sais que s'asseoir sur le pont de Brooklyn à 2 ou 3 heures du matin comporte des risques. Non, léger. Ou se balader en calèche à Central Park. Mes films décrivent. Je vais vomir, je sens pas bien, docteur. Mes films décrivent le New York de mes rêves, de mes vœux, parfois de mes souvenirs. Ainsi, New York est plus rêvée qu'est décrite par le cinéaste. Cocon matériel et bienveillant, la ville est ici dépouillée de sa réalité socio-économique. On aperçoit de tout le récit la moindre minorité raciale américaine, ni l'ombre d'un SDF. Tiens, donc, il n'y en a pas.
Ah,
Manhattan se présente comme une ville qui accueille, abrite, protège et nourrit des habitants toujours propres, polis et argentés. C'est beau. Ces lieux publics donc sont bien fréquentés, ces rues rutilantes et dépourvues de violence. Cette vision idéalisée lui est d'ailleurs reprochée par certains cinéastes comme Spike Lee, qui l'accuse d'avoir occulté complètement la présence pourtant évidente de la communauté noire à New York.
Ah bah c'est son opposé, je dirais même.
Donc nous allons attaquer maintenant notre branche italano-americano.
Oui, tout à fait.
Martin
Scorsese.
C'est bien. Est un autre cinéaste profondément marqué par son appartenance à la grande cité américaine. Né dans le Queens, il vient s'installer très jeune avec sa famille dans Elizabeth Street. Au cœur de Little Italy. Comme Allen, Woody de son nom, il est donc fasciné par New York et la plupart de ses films importants s'y déroulent. Mean Street, 1973, sans doute son œuvre de fiction la plus autobiographique. Taxi Driver ?
Oui, Taxi Driver en 1976 avec évidemment Robert De Niro, Jodie Foster et Hervé Cattell. Donc c'est l'histoire d'un ancien marine du Vietnam, chauffeur de taxi. Il épie sa ville, roule à son gré et de son humeur dépressif comme un étranger. Évidemment, la fameuse taxi jaune, ça on peut pas y éviter.
The cab.
Ouais, c'est ça. Alors il voit la prostitution, le sexe, la violence. C'est un film très lent, contemplatif et qui se finit vraiment dans une grande décharge de violence. Et ça reste pour certains le meilleur film de Martin Scorsese.
Avec la belle coupe de cheveux de...
Voilà, c'est ça, l'Iroquoise. You're talking to me.
Et bien sûr, New York, 1977 aussi.
Voilà, qui est une comédie musicale avec, donc, évidemment, toujours Robert De Niro et Liza Minnelli. Alors, c'est donc l'histoire d'un saxophoniste de jazz ambitieux qui rencontre Francine, une chanteuse, durant l'après-guerre. Alors, c'est le milieu de Brooklyn, d'Harlem, les clubs de jazz. L'essentiel, par contre, du film est quand même tourné dans les studios de la Metro-Goldwyn-Mayer à Los Angeles. Et voilà, on verra très peu de New York, à part Main Street ou quelques ponts comme ça. Mais voilà, donc l'essentiel du film est quand même fait à Los Angeles, comme d'ailleurs plusieurs films comme ça.
Comme quoi ? Le suivant, c'est Raging Bull, 1980.
Oui, c'est Jack LaMotta, évidemment, l'histoire de ce boxeur un peu légèrement violent et légèrement jaloux qui s'est battu plusieurs fois contre Marcel.
Cerdan.
Voilà, c'est ça. Et qui finira, hélas, comme vigile dans des boîtes de nuit.
D'accord, donc La Valse des Pantins, 1983, After Hours, 1985.
Voilà, avec Rosanna Arquette, donc l'histoire d'un informaticien à Wall Street qui rencontre une séduisante et énigmatique Marcy.
Et donc le suivant, Les Affranchis.
Ah oui, Les Affranchis avec Ray Liotta et Robert De Niro.
Ah bon?
Parce que oui, ben il est quand même né du coin et puis bon, enfin j'en parlerai plus longuement avec de Robert De Niro. Donc c'est un jeune homme qui a toujours rêvé d'être un gangster. Donc c'est sa montée dans le milieu de la mafia. Donc c'est un très très beau film.
D'accord. Donc pour Scorsese, la ville est un formidable réservoir d'images et d'idées. C'est ici que je trouve mon inspiration et ma dynamique. Il me suffit de sortir de chez moi pour absorber cette énergie qui déferle sur moi comme une décharge d'adrénaline. Le cinéaste possède d'ailleurs une aptitude particulière à filmer la cité avec ses mouvements frénétiques, ses sons assourdissants et ou stridents. Paul Schrader, hein, le scénariste de Taxi Driver, parle de son sens de la vibration, son sens de la ville. New York est aussi un cadre idéal pour les personnages angoissants de Scorsese, hein, comme elle, hein, c'est la ville, donc présente des pièges qui minent les anti-héros scorsésiens. Aucun n'échappe à la ville. Plus on fuit, plus les pièges urbains se referment sur vous. Oppressés par la ville, hein, ces personnages suffoquent artificiellement. Donc, pour comme disait Gwen, monsieur le chauffeur de taxi, interprété par Robert De Niro dans Taxi Driver, poursuit en tous sens les rues de la ville comme s'il était pris dans une nasse. Parfois, la vision de Scorsese est plus souriante. Dans After Hours, le personnage incarné donc par Griffin Dunne, hein, vit une nuit de cauchemar dans le quartier de South Houston Street.
Oui, oui, c'est le quartier des galeries d'art.
Voilà. Mais ces mésaventures sont bien dérisoires et sont traitées comme une farce de subconscient à la limite du rêve. Pour une fois, Scorsese tourne ses angoisses en dérision. Il s'est moqué de ses hantises personnelles qui sont celles de l'Amérique. Écrasement de l'individu par la ville molokéenne, alors que le rêve américain de Thomas Jefferson avait prôné la vie dans la nature. Donc cette obsession du cinéaste pour New York se retrouve dans des films plus récents, comme À tombeau ouvert.
Oui, avec Nicolas Cage.
Ou Gang of New York.
Oui, le Gang of New York 2002 avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Bill the Butcher et Liam Neeson qui joue son père, Cameron Diaz et Brendan Gleeson. Alors ce qui, donc évidemment, c'est une grande fresque sur les origines de la création de la ville de New York où les natifs américains et les immigrants irlandais cohabitent dans une violence quotidienne. Ça fonde sur la guerre de sécession et sur l'abolition de l'esclavage qui me pousse encore plus. Donc c'est dans le quartier des Five Points qui n'existe plus. Et on peut encore visiter un peu le coin, mais finalement il a un peu évolué. Alors ce qui est très marrant d'ailleurs, puisque c'était un projet qui avait été quand même mûri depuis les années 70, ce qui est très marrant, c'est que le personnage de Leonardo DiCaprio se prénomme Amsterdam. Et ce qu'il faut savoir, c'est que New York avant s'appelait Nouvelle-Galles. Donc New York s'appelait Nouvelle-Amsterdam. Donc voilà, c'est un, je pense, un clin d'œil. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une série qui se déroule, qui s'appelle Cooper, et qui parle évidemment d'un flic irlandais qui enquête sur la disparition de sa femme à l'époque des Five Points.
En fait, c'était dans les débuts de New York préhistorique, ça, ce film Gang of New York.
Non, puisque c'est l'époque de la guerre de sécession, c'est fin 19e. Donc voilà,
donc
mais
c'est
c'était
la ville quand même.
Oui, mais voilà, c'est l'époque où Ellis Island ça débarque, quoi.
C'était la violence des conflits ethniques entre ce qu'ils appelaient les natives et les immigrants.
Voilà, c'est ça, irlandais. Oui, puisque le père d'Amsterdam, c'est le prêtre irlandais. Tu sais, il a sa grande croix irlandaise. D'ailleurs, il tabasse bien avec. Donc voilà. Et puis Bill the Butcher, qui évidemment représente les natifs, puisqu'avec son œil de verre, il a le fameux aigle américain.
C'est beau. Donc le troisième larron, hein, Spike Lee, est la tête de file donc des cinéastes afro-américains apparus dans les années 1980. Il est aussi très attaché à la ville, hein, où il a été élevé. S'il est né à Atlanta, hein, bien sûr, en Géorgie.
Oui.
Il a passé sa jeunesse à Brooklyn, dans le quartier noir de Bedford-Stuyvesant, où se déroule l'action de son film Do the Right Thing. 1989.
Qui en fait raconte durant une seule journée, donc dans ce fameux quartier, fameuse journée qu'on appelle The Dog Day. Ça raconte l'histoire de Spike Lee, et jouer avec Spike Lee, l'histoire de Mookie, qui est un livreur de pizza. Et donc, évidemment, il livre ses pizzas et il y a tout un tableau de quartier. Et juste au moment où il y a une rixe et ça va partir en sucette. Et là, tout le monde va dégénérer et carrément griller, comment dire, la pizzeria où Mookie travaillait.
Donc, à l'instar de ses collègues new-yorkais, la plupart de ses films ont été filmés dans le même cadre urbain. De Nola Darling à 1986 à Girl Six 1996, en passant par Armo Better Blues 1989 et surtout Crooline 1994.
Crooline qui raconte dans les années 70 l'histoire d'une mère qui est forte, d'un mari jazzman buté, de Troy qui est l'unique fille de 10 ans et qui prendra les rênes de sa mère quand on apprendra qu'elle aura le cancer, et de ses quatre frères qui sont des pires feignants qui soient.
Spike Lee donc s'est d'ailleurs vu critiquer par sa vision presque idyllique du ghetto. Dans Do the Right Thing, donc les petites maisonnettes de Bed Stuy ont un aspect propre et bien léché. La peinture de la communauté est haute en couleur, à la limite du cliché, et ce tableau était jugé peu crédible par beaucoup. Donc le
c'est les avantages de l'enfance, c'est qu'on gomme un petit peu tous les côtés un peu obscurs.
Voilà. Donc le cinéaste s'est vigoureusement défendu. On m'a accusé d'avoir assaini la communauté, de l'avoir montré dénuée de voyous, de délinquants et de drogue. Bed Stuy n'en a ni plus ni moins que n'importe quelle autre partie de la ville. Lee affirme avoir voulu refuser toute noirceur exotique.
Ouais, le pathos, quoi.
Oui. La pire insulte qu'on pouvait lui faire serait de voir en lui un Woody Allen noir. Qui rêve son ghetto comme le réalisateur juif sublime son Manhattan. Donc ces trois cinéastes issus de minorités plus ou moins bien intégrées à la société américaine entretiennent des rapports particuliers avec leur ville. La fascination qu'ils éprouvent pour New York a été féconde pour leur travail cinématographique. Donc nous allons parler maintenant de New York des autres, puisqu'ils sont encore...
Il y en a de nombreux, oui.
Fais le loup.
Oui.
Donc, ceux-là n'ont pas la célébrité donc, des trois premiers, mais ils sont tout autant amoureux de la grosse pomme. Robert De Niro, monsieur Gwen, je laisse pour vous.
Oui, tout à fait. Robert De Niro, donc, comme on disait, qui est né à New York, a fait le fameux film Il était une fois dans le Bronx en 93 avec De Niro lui-même. Donc, ça raconte dans les années 60, le Bronx, le quartier de Fordham, qui est contrôlé par la mafia. Un chauffeur de bus va tout faire pour que son fils ne fréquente pas la terre du milieu, c'est qu'elle le dit. Mais ce dernier, donc cet enfant, en respectant l'omerta suite à un meurtre dont il est le témoin, se verra parrainé, c'est qu'elle le dit, par le fameux Capo Sonny. Le Capo, tu sais, le chef, le Capo de tutti capi. Donc voilà, et qui va le prendre sous son aile.
Formidable. Donc on peut aussi souligner que Robert De Niro, je crois qu'aussi il est aidé par Woody Allen, ils ont créé le festival de Tribeca. Juste un petit mot, donc ce que c'est, donc c'est un quartier de New York, à Manhattan, qui a été créé après le 11 septembre 2001, les fameux attentats. Oui. Donc c'est un festival de films indépendants, donc on retrouve des courts-métrages. Merci. Documentaires et récits, ainsi que des films familiaux, donc sont proposés.
Oui, puis il faut savoir que Robert De Niro aussi produit une série NYC 22. Donc c'est une série policière.
Ah bon ? Ça me dit rien. Donc on va dire aussi Monsieur Abel Ferrara, donc qui met en image une ville sombre et inquiétante dans The King of New York.
Voilà, en 1990 avec Christopher Walken, David Carvo et Laurence Fishburne, notre célèbre Morpheus. Donc c'est un gangster au grand cœur, mais aux méthodes définitives, surnommé par la presse The King of New York, et qui rêve de fonder un hôpital face à des policiers qui volent sa peau.
D'accord, il y a aussi le fameux Bad Lieutenant.
Oui, tout à fait. En 92, 18 jours de tournage, c'est hyper rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise de drogue a été véritable. C'est-à-dire que les comédiens prenaient vraiment de la drogue. Oui, parce qu'il faut savoir que Zoé Lund, Abel Ferrara et Harvey Keitel étaient des toxicos et des forces alcooliques à cette époque-là. Et d'ailleurs que Zoé Lund a fait une overdose en 99. Donc c'est la descente aux affaires d'un officier de police corrompu, toxico, accru au Paris sportif. Évidemment, il sait qu'il est condamné, donc il veut faire une dernière enquête sur le viol d'une bonne sœur pour évidemment être dédouané de tous ses mauvais services.
Je crois qu'ils en ont fait un remake, non ? Bad Lieutenant qui se passe à Nouvelle-Orléans avec Nicolas Cage.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord, donc tout comme James Gray avec Little Odessa.
Oui, Little Odessa avec Tim Roth, Vanessa Redgrave. Donc c'est un tueur qui doit exécuter son contrat à Little Odessa, donc le quartier juif russe dont il est originaire. Voilà, c'est
ça. Beau.
Évidemment, il y a un type qui l'attend puisqu'il a buté le fils de ce dernier, donc il l'attend. Et donc c'est évidemment représentatif du cinéma indépendant américain.
D'accord, et aussi il nous a fait La Nuit nous appartient
en 2007 avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall et Eva Mendes. Donc c'est l'univers des boîtes de nuit, des trafics de drogue, des filles sexy, des flics. Donc le héros patron de boîte de nuit, soutenu par la mafia russe, ce dont il ignore, est en même temps le fils du chef de la police new-yorkaise. La mafia tente de tuer son frère, son choix est désormais fait.
Quant à Mister Sidney Lumet, Quant à lui, il dépeint un univers judiciaire et policier corrompu avec le célèbre Serpico.
Oui, en 1973, avec Al Pacino, qui était d'ailleurs new-yorkais.
Il est énorme, ce film.
Voilà, à la suite d'une grave blessure, un inspecteur de police revoit sa carrière. Seul, dans un milieu corrompu, écœuré, il démissionne à la sortie d'hôpital et part en Suisse. Et d'ailleurs, il y a une série qui a été faite dans les années 70 de Serpico. Et ça n'a pas superment bien marché parce qu'il n'y a eu que 14 épisodes de 1976 à 1977.
Et aussi dans l'ombre de Manhattan, du même.
Donc... Oui, tout à fait, avec Andy Garcia, Ian Holm, donc le fils de policier, Shinkaze, a été également flic avant de devenir procureur. Donc son père est blessé en tentant d'arrêter un dealer et compromis dans une affaire de trafic un peu chelou. Donc Shin doit-il défendre son père ou l'éthique? Je voulais aussi parler, puisque tu parles de notre cher Sidney Lumet, c'est qu'en 1957, il avait fait 12 hommes en colère avec,
oui, oui.
Avec Henri Fonda.
Donc, oui, voilà. Oui, oui, oui. Donc aussi, donc, Brian De Palma et William Friedkin ont eux offert au cinéma deux superbes courses-poursuites. Donc le premier, c'est avec L'Impasse.
Oui, en 1993, avec Al Pacino. Et Sean Payne, donc
Sean Payne.
Oui, par contre, Al Pacino, tu me parles, mais bon, c'est pas grave.
Et donc le deuxième, c'est French Connection. Et
voilà, en 71, avec Gene Hackman, donc Oscar du meilleur film. La police enquête sur le trafic de drogue venant de France, mais le patron, un Français, pour une fois, les Français sont les méchants, lui échappe. Et il y a aussi un French Connection 2 avec de John Frankenheimer,
tourné à Marseille.
Voilà, et avec Bernard Fresson et Philippe Léotard.
Oui.
Qui lui s'y connaissait bien.
Oui, il suivait toujours la bonne ligne. Voilà. Alors, même Mr. Stanley Kubrick a succombé avec Eyes Wide Shut. Sauf que bon, l'essentiel a été quand même tourné en studio en anglais.
Donc, oui, mais ça on avait dit parce qu'il n'aimait pas tourner aux States. Il n'aimait pas les studios. La politique des studios.
Donc, on va maintenant citer nos deux lieux favoris qui sont hyper photogéniques.
Oui.
Central Park et Times Square.
Ouais, tout à fait.
Donc, deux lieux hautement photogéniques, comme je le disais, que le cinéma ne s'est pas privé d'utiliser. Robert Redford et Jane Fonda promènent pieds nus.
Dans le parc, oui, de Jane Sachs. Donc, c'est l'histoire de deux amoureux qui vivent un amour merveilleux. Et là, c'est à un moment, il y a la fin de la lune des lémiels.
D'accord. Donc, voilà. Donc George Clooney tombe amoureux de Michelle Pfeiffer.
Dans Un beau jour,
ouais. Oui.
Ouais, ça
ou bien
aussi.
Une nuit. Il y a aussi donc le fils de Mel Gibson qui se fait kidnapper.
Oui, dans la rançon de Ron Howard en 1996, et que au lieu de donner la rançon, parce qu'il sent que finalement les mecs vont pas lui rendre son fils, et ben il lance une rançon sur les types.
Et bien sûr notre Mr. Bruce Willis, qui traverse en excès de vitesse le fameux parc.
Oui, oui, évidemment, dans une journée en enfer, puisque ça se passe en 95 à
John
New York.
John McClane.
Et donc un terroriste fait exploser et exige que notre cher inspecteur John McClane soit présenté à lui et va lui faire le fameux jeu de Jacques Addy.
Oui.
Voilà.
Et donc, seuls deux stars comme Tom Cruise et Will Smith qui pouvaient réussir l'exploit d'arrêter le fourmillement de Times Square dans le premier, donc avec
Vanilla Sky.
Voilà.
Oui, avec évidemment Cameron Diaz et Penelope Cruz, donc de Cameron Crowe. Donc, évidemment, David rencontre Sophia. Il se dispute avec Julie, son ex. Il y a un accident de voiture. Il est défiguré. Tout le monde le rejette. Et finalement, Penelope va revenir. Mais là, il y a un mystère. Donc je vous raconterai pas, mais effectivement, oui, il y a cette fameuse truc où il y a plus personne dans la ville, et il arrive à Times Square, et évidemment, la caméra tourne autour de lui, et voilà.
D'accord. Et le deuxième avec Will Smith ?
Je suis une légende.
Oui, Gwen, il est une légende.
Ouais,
dans Alpes Magazine.
De Francis Lawrence, évidemment. Oui, enfin, il est pas vraiment tout seul, puisqu'il a quand même son chien. Donc, effectivement, parce qu'en 2009, il y a eu un vaccin contre le cancer. Hélas, comme toujours, quand les grandes industries se mettent à faire des vaccins, ça se transforme en virus et ils se retrouvent piégés, puisqu'il y a des méchants. On peut même pas dire des zombies, on pourrait même plutôt dire des vampires qui veulent l'attaquer, mais qui ne peuvent pas sortir au grand jour. Et il faut savoir que notre cher Will Smith se baladait en Ford Mustang Shelby GT500 dans les rues désertes. Et alors ça,
il devait se faire plaisir.
Ouais, il devait se faire plaisir. Surtout que ce qui est génial, c'est que en fait la ville est retournée à l'état sauvage. Donc vraiment, il y a des animaux, puisque le fameux zoo de Central Park a dû être ouvert, puisqu'il y a des lions qui se baladent, des arbres. Et donc voilà. Donc c'est vraiment. On peut retrouver aussi ça dans l'armée des douze singes aussi, dans le futur.
D'accord, et aussi on peut le retrouver donc dans divers films, hein, comme la célèbre ville qui est peuplée par des fantômes dans le célèbre...
SOS Fantôme.
Oui.
Oui, tout à fait. De Ivan Reitman, si je m'en souviens bien, avec Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Bill Murray. Donc le temple de Gozer, repère du méchant Zool, est au 55 Central Port West. Et par contre, ça a été tourné essentiellement à Los Angeles. Et la caserne des pompiers, elle existe. Le Hook and Ladder est au coin de Moore Street et de Varick Street.
Merci.
Donc là où ils ont leur QG.
C'était donc aussi une ville qui a été placée sous la loi martiale d'un couvre-feu.
Voilà, c'est ça.
Et elle a été gelée d'un...
Le jour d'après de Roland Emmerich. D'ailleurs, lui, Roland Emmerich, il doit pas aimer New York. Parce que...
ouais.
Qu'est-ce qu'il lui en met dans la patate? En 2004, avec Dennis Quaid, Jack Ginlal, Ian Holm. Donc, il y a le fameux tanker russe qui s'échoue devant la National Library. Puis l'image, évidemment, de New York avalée par la banquise.
Oui, c'est en fait, il se paye un gros tsunami avec la température descendante.
Voilà, c'est ça. Bah, c'est le dérèglement climatique, quoi.
C'est magnifique. Et elle est aussi détruite donc par des météorites dans Armageddon.
Armageddon, oui, de Michael Bay, 98, avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Affleck, évidemment. Mais là aussi, c'est un grand classique de New York, puisqu'évidemment, elle se fait détruire. Je crois que c'est le Chrysler Building qui se prend un impact. Mais il y a aussi, évidemment, Paris, puisque oui. New York et Paris se ressemblent souvent. C'est toujours eux qui, bizarrement, prennent sur le coin de la tronche, alors et que d'autres villes...
Oui.
Parce que New Delhi...
Non, c'est pas où c'est, ça. Et donc aussi une explosion nucléaire d'un...
Les Watchmen, ouais. Donc les gardiens de Zack Snyder en 2009.
Et donc attaqué aussi par des extraterrestres.
Dans hein. Independence Day de Roland Emmerich, toujours. Bill Portman et Will Smith. Là, évidemment, il y a la fameuse...
Très patriotique.
Mais c'est le fameux truc du rayon, là, qui ouais, détruit ouais. toute la ville. Ouais. Et donc, on voit les voitures qui volent. Et c'était à l'époque le gros effet spécial du moment.
Non, effet depuis spécial.
Effet spécial.
C'est moi l'effet spécial. Et aussi le jour où la Terre s'arrêtera.
Oui, effectivement, les aliens atterrissent à Central Park avec notre cher Keanu Reeves. Donc voilà, non, celui-là aussi, il est bien. Puis il y avait La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Hein.
Oui.
Oui, parce que l'histoire se passe quand même plus à New York. Évidemment, toute la planète est envahie, oui. Mais bon, l'histoire avec Tom Cruise et Dakota Fanning en 2005.
Sans oublier les monstres géants.
Oui, dans Cloverfield, dans Godzilla aussi, avec notre cher français Jean Reno. Puis, parce que Godzilla d'habitude attaquait Tokyo, mais bon, là il a délocalisé parce que pour des budgets, pour lui c'était plus simple d'attaquer New York. Il y a aussi évidemment King Kong de Peter Jackson avec Naomi Watts, Adrien Brody et Jack Black, donc le fameux Empire State Building. Hein. Donc l'histoire de cette pauvre petite bestiole attaquée par des petits avions qu'on avait évidemment, comme tu l'avais dit, déjà vu en 1933 dans le film de Marianne C. Cooper et Ernest B. Shedak. Donc évidemment, là par contre, c'était une maquette. Hein. Là, forcément, on faisait des maquettes. Bah, si, enfin, ça se dit. Quoi.
Et donc, juste fait pour revenir à ce qu'on a dit la semaine dernière, hein, la fameuse romantique à New York.
Oui,
aussi.
Tout à fait aussi, oui.
Puisque ville au taux record de célibataires, New York est le lieu parfait pour mettre en scène deux âmes sœurs perdues dans la cité. Donc, comme l'avait dit Gwen, avec Audrey Hepburn, un petit déjeuner devant un célèbre bijouterie dans Diamant sur canapette.
Oui, voilà, c'est ça. Breakfast at Tiffany, New York, Miami de Frank Capra. Vous avez un message de Nora Ephron, donc avec Tom Hanks et Meg Ryan. Puisqu'en plus, le pseudo de Tom Hanks, c'est New York 152. Donc c'est pour encore plus dire. Et puis là par contre c'est vraiment le tour complet de l'Upper West Side. Et puis il y a aussi le
mariage raté de Carrie Bradshaw dans Sex and the City.
Voilà, tout à fait. Et puis quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner. Et la scène de l'orgasme là dans le Cats Delicatessen dans le Lower East Side. Donc la table est désormais indiquée pour tous ceux qui veulent la voir. Et pour la petite histoire, la dame qui demande le même plat que Meg Ryan n'est autre que la mère de Rob Reiner.
Quand même.
Évidemment, il y a des vues de Central Park, de Washington Square et du Mets.
Et les rendez-vous au sommet de l'Empire State Building.
Oui, dans Nuit Blanche à Seattle. Avec
elle et lui aussi.
Voilà, c'est ça, elle et lui aussi. Il y a le coup de foudre à Manhattan. Évidemment, pour ceux qui sont adeptes de la poterie, il y a Ghost de Jerry Zucker en 90 avec Demi Moore, Patrick Swayze et évidemment Whoopi Goldberg. Il y a Hitch d'Andy Tannen en 2006 avec Will Smith et Evan Mendes, donc un Mr. Love et une journaliste dure à cuire. Véritable visite de Manhattan, Ellis Island, les marches du Met, le taureau de Wall Street sur Broadway, le pique-nique évidemment classique à Central Park et le quartier de Soho. Et puis évidemment, pour notre GG national, Green Court de Peter Weir en 90 avec Andy McDowell.
Il doit être formidable. Donc les producteurs ont toujours donc su exploiter l'ambiance si particulière de New York, seul rival cinématographique de Paris, question romantisme.
Ah oui, tout à fait, oui, oui.
Donc on va parler maintenant de New York, c'est une ville studio. Hein. Donc comme le disait Gwen, Michael Bloomberg, hein, oui, maire élu en 2002, a mis en place des facilités fiscales pour stopper l'exode des tournages vers le Canada, oui, moins cher.
Oui, tout à fait.
Depuis, l'industrie du cinéma représente 10 000 emplois et 1 milliard de dollars par an.
C'est pas n'importe quoi.
Oui, quand même. Sans compter le tourisme et son impact économique indirect. Au moins deux agentes proposent des visites guidées de New York telles qu'on la voit au cinéma.
Oui, puis il y avait aussi, puisqu'on en avait parlé avec l'émission de Marilyn Monroe, c'est qu'elle avait voulu créer ses propres studios, elle, à New York. Voilà, c'est, puisque c'est la fameuse rivale de Los Angeles, puisque c'est évidemment c'est ce côté un peu plus intellectuel que la ville de Hollywood.
C'est les angoissés, comme les appellent,
ouais,
les Californiens.
Oui, tout à fait. Et puis, mais je pense que ça vient aussi de l'histoire, puisque il y a beaucoup d'immigrants qui sont venus, ils se sont installés, et que au fur et à mesure de l'avancée vers l'Ouest, c'était plus des Américains que techniquement des Européens venus s'installer aux États-Unis. Moi, je voulais parler, puisque
petit français, non?
Non, moi je voulais aussi parler, puisque on a parlé de Central Park, quand même un film qui se passe quand même beaucoup dans ce fameux parc au centre de Manhattan, c'est Marathon Man de John Selinger.
Marathon
Schellman.
Man.
Oui, Marathon Man. Oui, de John Selinger, oui, en 1976, le même qui réalisera plus tard Macadam Cowboy avec Dustin Hoffman et Sir Laurence Olivier. Donc on voit le réservoir, donc le lac du parc, le zoo, Diamond District qui est autour de la 47e rue, qui est donc évidemment le quartier des bijoutiers, puisque tout tourne autour évidemment de avec ces histoires de bijoux.
Ton bon dentiste.
Oui, c'est ça. Et puis ça fera penser au film K avec Patrick Bruel, qui est un peu le remake de ce film-là.
Avez-vous fini côté cinéma? Parce que moi, je vais quand même parler de New York star de télévision aussi.
Non, non, non. On va parler des grands réalisateurs, Sidney Lumet, Brian De Palma. Il y avait aussi Pulsion, hein, avec Michael Caine et Andy Dickinson, qui est un film assez gore, hein, on doit bien le dire. Le Prince de New York aussi, en 81, de Sidney Lumet. Hein. Parce qu'après, il y a celui de John Landis, ça n'a rien à voir. Donc en 71, un groupe de policiers, brigade de stupéfiants, sont là pour appréhender les gros gibiers, qu'on appelle donc les princes de New York. Et ils opèrent selon leurs règles. Alors l'un d'eux décide de collaborer à une commission d'enquête et les fera tomber un par un. Pour parler de son éponyme, un prince à New York, c'est ça, de John Landis avec Eddie Murphy, hein, qui est un riche prince d'un royaume fictif d'Afrique et qui va croire que les femmes se trouvent évidemment dans le quartier des reines, donc le Queens, malencontreusement, le Queens c'est quand même le quartier les plus défavorisés, donc effectivement, là il va se déguiser en pauvre pour pouvoir séduire sa dulcinée. Il y avait Francis Ford Coppola, qui a fait quand même deux films sur New York, Cotton Club en 84, avec Richard Gere, Diane Lane et Nicolas Cage. Merci tonton. Donc ça raconte en 1919 la prohibition, la pègre, les politiciens, les stars se côtoient, un trompettiste blanc et un danseur noir vont au son des claquettes être emportés par la furie du jazz. Le Parrain en 1972, donc le quartier de Low East Side, évidemment la cathédrale Saint-Patrick où Michael Corleone se fait décorer de l'ordre de San Sebastian, et évidemment au début du film Ellis Island, puisqu'évidemment c'est le passage obligé des immigrés. Sergio Leone, Il était une fois en Amérique en 1984, un film qui dure quand même 3h40. C'est la fin de sa trilogie, puisqu'il avait fait Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, et donc ça finit par Il était une fois l'Amérique, donc à New York. D'ailleurs, l'affiche est le pont de Manhattan, hein. Ça raconte l'histoire avec Robert De Niro et James Wood. Donc elle est l'occasion d'une mystérieuse invitation. Un homme de 60 ans revient à New York, et là, il y a un souvenir qui le hante, puisqu'il a dénoncé ses camarades qui voulaient faire un braquage et qu'ils sont tombés dans un guet-apens des flics et qu'ils sont tous morts. Il y a aussi Barry Levinson, Sleeper, Donc avec Kevin Bacon, Brad Pitt, Robert De Niro, il est toujours par Dustin Hoffman.
Lui aussi. Ah, il aime sa ville. Hein.
Oui, il aime sa ville. Donc dans les années 60, dans le quartier de Hell's Kitchen, des gamins commettent une bêtise et un passant meurt. Là, ils sont envoyés en prison pour les mineurs. Ils subissent les pires outrages dans des conditions inhumaines. Ils sont soutenus par le curé de la paroisse. Ils survivent, mais 11 ans plus tard, ils ont l'occasion de se venger. Donc Hell's Kitchen est à la pointe ouest de Manhattan, entre la 40e et la 57e. C'est un quartier peu populaire.
Il n'y avait pas aussi, puisque tu parlais du policier, il n'y avait pas Copland, un
film oui, avec Sylvester Stallone. Oui, oui, c'est ça aussi. Mais là aussi, parce
c'était
qu'en
plus
fait,
l'autre côté de.
Bah ouais, mais bon, il y a Staten Island, mais c'est plus le côté. Mais en fait, c'est quand même la police new-yorkaise qui gère, grâce à des trafics, la mafia. Et évidemment, Copland va décider de dénoncer ça, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est le meilleur film de Sylvester Stallone, qui avait d'ailleurs bien pris du poids. Il y a aussi pour les héros. Puisque Superman de Richard Donner est en 78, les Avengers, puisqu'ils défendent la ville, Daredevil, hein, aussi, hélas, avec Ben Affleck, Men in Black de Barry Sonnenfeld, puisque le QG des Men in Black, c'est le 504 Battery Drive, et qui s'appelle le Holland Tunnel, et non, pas comme notre cher président, et c'est le fameux tunnel qui relie Manhattan à New Jersey.
Ah, c'est là où il y avait eu le truc aussi avec Sylvester Stallone.
Voilà, c'est ça, oui. Spider-Man de Sam Raimi, avec Tommy McGuire et William Dafoe. Alors évidemment.
Le 1 et le 2 d'ailleurs.
Oui, oui, et, mais par contre, ils sont tous faits au studio Sony en Californie. Le laboratoire aussi, pareil pour le journal. Il y a juste l'histoire du restaurant et puis aussi le téléphérique du Queensboro Bridge. Il y a Les Gremlins 2 de Joe Dante.
Oui, bah oui.
Rosemary Baby de Roman Polanski. Il y a Le Cinquième Élément, appelé de Luc Besson. En 97, avec Bruce Willis, Mila Jovovich et Chris Tucker, qui évidemment tout, alors c'est fait par numérique puisque effectivement c'est dans le futur donc ça n'existe pas. Mais il l'avait déjà fait puisque il l'avait fait en 93, Léon, avec Nathalie Portman, Gary Oldman et Jean Reno aussi. Donc et puis il y a aussi L'Apprenti Sorcier, qui est un film un peu bâtard, hein, je dois le dire, avec Nicolas Cage.
Bateau.
Non, bâtard. Bâtard. Non, non, on peut dire bâtard. Non, parce que
il a coulé dans le
sol. Non, mais ça casse. Pas de quatre pattes, un canard. Et évidemment, on voit le taureau de Wall Street qui devient vivant. Et évidemment, le Chrysler Building qui devient un aigle. Magnifique. Et c'est le fameux là où aussi Will Smith, dans Man in Black, doit sauter dans le temps. Donc c'est à partir de cet aigle-là. Il y a évidemment aussi des films autres, Kramer contre Kramer, de Robert Benton en 1979 sur le divorce. Je pense que le fait que ce soit à New York, c'était aussi parce que peut-être que les mentalités étaient plus ouvertes que si on l'avait fait au Texas. Macadam Cowboy, donc évidemment de John Selinger en 68. 9 semaines et demie d'Adrian Lyne, donc avec Mickey Rourke et Kim Basinger, tout plein d'endroits insolites. Le quartier des Galeries d'Art où il y a le loft de John. Coney Island, évidemment, avec la grande roue, hein, c'est le parc d'attraction. Et la fameuse première rencontre qui est à Chinatown. Et la dernière scène torride est à l'hôtel Chelsea.
Hôtel Chelsea, c'est pas où était Strauss-Kahn.
non, je ne dénonçais pas. Il y a Black Swan, donc, de Darren Aronofsky en 2011 avec Vincent Cassel et Nathalie Portman. Donnie Brasco aussi de Mike Noël en 97, celui qui avait fait 4 mariages et un enterrement. Un éclair de lune de Norman Jewison avec Cher et Nicolas Cage, évidemment une histoire d'amourette. Évidemment, Fame d'Alan Parker en 1981.
Comment ne pas citer celui-ci ?
Voilà, c'est ça. Thomas Crowe aussi de John McTiernan, le monsieur McLean. Hein. Évidemment, le maître évidemment est au centre. Il y avait et puis pour les plus classiques, puisque tu n'as pas cité, mais il y avait quand même Les Aventures de Tarzan à New York, hein, de Richard Thorpe avec Johnny Westmiller. Alors je sais pas s'il y avait une histoire de natation entre les deux. Hein.
Puisque tu parles aussi de héros, on peut dire Crocodile Dundee.
Mais voilà, Crocodile Dundee de Peter Feynman avec Paul Hogan, Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, La Mort aux trousses, Un roi à New York, donc Charlie Chaplin, et évidemment. Pour nous, les Français, Cocorico, les gendarmes à New York. Et puis, il y a évidemment Wall Street d'Oliver Stone en 87 avec Charlie Sheen, Michael Douglas et Daryl Hannah.
Oui.
Donc, évidemment, le Financial District, la Bourse de New York, Broadway, le Club 21, le restaurant Tavern on the Green à Central Park, West Side Story de Robert Wise et Jerome Robin. Évidemment, c'est les quartiers pauvres à l'époque, dans les années 60. Depuis qu'il y a le Lincoln Center, évidemment, maintenant, c'est plus huppé. Hein. Alors, il y a des petits films aussi, hein, Un automne à New York, avec Richard Gere et Winona Ryder. Un Indien à New York, John Pasquin, donc avec Tim Allen. En fait, c'est un remake d'Un Indien dans la ville.
Hein. Oui, avec voilà. Thierry Lhermitte.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et puis, il y avait Recherche Suzanne désespérément.
Oui, oui.
Avec donc Rosanna Arquette et notre chère
Madonna.
Madonna. Bon, là, tu vas te lancer sur les séries, donc.
Donc, bien sûr, New York ne séduit pas Hollywood. Hein. New York aussi, donc Police Blues, hein, les experts Manhattan, New York District, New York Police Judiciaire, New York Section Criminelle, New York Unité Spéciale.
Non, mais ça, c'est l'effet Giuliani, tolérance zéro.
New York Cour de Justice, etc.
Mais je pense qu'il y a plus une grande histoire d'amour entre les New Yorkais et leur police qu'avec LAPD.
Oui.
Los Angeles, parce que c'est vrai que c'est les deux grandes sections flics qu'on connaisse aux États-Unis.
Non, hein, il y a celle de SWAT aussi. Le SWAT.
Ouais, non, mais ça, c'est les groupes d'intervention, ça.
On ne compte donc plus les séries donc tournées dans la ville et la plus célèbre d'Amérique. Donc, il faut aussi ajouter toutes les sitcoms mis en boîte dans les studios californiens, mais censés se dérouler à Brooklyn ou ailleurs, comme le Cosby Show,
oui.
Un gars du Queens, et bien sûr notre chère et évidemment grande série Friends.
Friends, oui, puisqu'il y a le fameux café, le Central Perk.
Oui, voilà. Perk.
Voilà. Et puis Fame, évidemment.
Oui.
Dingue de toi, qui avait fait 164 épisodes, avec Ellen Hunt et Paul Reiser, donc un couple de jeunes mariés. Gossip Girl, Hero, Quoi de neuf docteur, pour ceux qui connaissent un peu plus, hein, pour les jeunes. Et c'est là où avait débuté Leonardo, d'ailleurs. Rescue Me, les héros du 11 septembre. 24 heures chrono, saison 8. Canet lacé, pour les plus anciens. C'était les premiers duos de filles, policiers. How I Met Your Mother, Mad Men, qui est la fameuse série sur une agence de pub dans les années 60. Manimal, aussi.
Oui,
Manimal,
oui.
On reconnaît. Spin City, avec Michael G. Fox, avant qu'il aille mal. Raconte l'histoire de Mike Flaherty, donc qui rattrape toutes les bourdes d'un maire gaffeur. Taxi, évidemment, puisque les taxi drivers, c'est quand même, c'est un grand classique, hein. Avec Danny DeVito, Tony Danza et Andy Kaufman. Ugly Betty, puisqu'il faut quand même pas oublier que New York comme Paris, ce sont des grands lieux de la mode. Une nounou d'enfer avec de Fran Francha, donc avec la fameuse nounou Fran Fine, Maxwell Sheffield, évidemment, qui est l'adversaire de André Lloyd Webber, le grand metteur en scène, et évidemment les disputes de Niles et de chasteté Bangkok. Il y a Castle aussi, donc un écrivain qui est au service de la police, et donc je vous avais parlé de Cooper, un émigré irlandais. Donc il y a quand même beaucoup de trucs policiers, hein. Plus que il y a quelques
films. Parce qu'avant, ils étaient vraiment connus pour un taux de criminalité qui était quand même assez énorme, je crois. Comme tu dis, là, Giuliani qui est arrivé, il a fait un grand coup de nettoyage.
Ouais, c'est la grande tolérance zéro.
Parce que si tu regardes bien, tous les films de 70 sont sur la police corrompue,
oui,
etc.
Oui, mais ça avait été aussi le cas pour Los Angeles dans les années 50, puisque les LA Confidential, ouais. Jim Elroy, qui a beaucoup fait là-dessus aussi. Hein, et puis, je pense que là aussi, on va pas en polémiquer puisque c'est pas notre émission, mais il y a quand même ce qu'il y avait eu, c'était la guerre entre les rappeurs de la East Coast et de la West Coast, qui avait quand même mal fini pour certains.
Oui.
Donc, ils avaient fait tout pack de balles.
Votre conclusion.
Je dirais qu'effectivement, New York, je dirais que c'est quelque part la plus européenne des villes des États-Unis, effectivement, par son passé, puisque c'était le passage obligé des émigrants. Effectivement, il y a un cadre, il y a tout ce côté de Manhattan, il y a des grands réalisateurs, effectivement, comme Woody Allen, comme Martin Scorsese.
Spike Lee.
Spike Lee, évidemment, qui, lui, par contre, voit plus les quartiers pauvres. Mais je pense qu'effectivement, c'est une très belle ville et qui, alors, bizarrement, est critiquée pour être un peu trop intellectuelle et trop dépressif vis-à-vis de sa collègue un peu plus ensoleillée de Californie.
Un peu plus siliconée.
Un peu plus. Oui, c'est la fameuse silicone. Effectivement, là, on a parlé vraiment de films qui se situent à New York avec des réalisateurs new-yorkais, des acteurs new-yorkais, mais il y a aussi beaucoup dans les films pour qui la destination New York est vachement importante, quoi.
Il y a aussi le film de Laila Bechti,
oui,
qui s'appelle New York.
New York, bon, évidemment.
Qui est une comédie gentillette, sans intérêt.
Tout à fait, oui.
Bon.
Tous les amis qui débarquent là pour l'anniversaire des leurs, de leur cité.
Le scénario est bidon, mais il y a de très belles vues.
Oui, mais voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là parce qu'effectivement, c'est vraiment les Français qui débarquent, qui voient évidemment le Times Square. Évidemment, ils vont aller aussi à Coney Island en hurlant Obama, Obama, alors que les mecs, ils le regardent en se disant mais où, mais ça va, quoi.
T-shirt Obama.
Oui. Et puis il y a toutes les histoires, puis évidemment avec la star
capricieuse.
Oui, capricieuse. J'ai beaucoup aimé ce film pour ça, évidemment ce regard français. En plus, l'une des héroïnes a sa mère malade, et évidemment c'est marque de réussite pour d'être aux États-Unis et notamment à New York, quoi.
D'accord. Donc nous allons aller dans notre célèbre rocher.
Oui.
Chercher les oiseaux.
Oui, tout à fait. The birds. Donc il y a trois films.
Sinon rien.
Donc un film anglais, un film français et un film américain.
Oui.
Donc le film anglais, Le Petit Gruffalo, qui est un film d'animation pour les tout petits, on peut le dire.
Non, mais il y a trois courts-métrages aussi.
Okay, oui, dans Des pas dans la neige de Malika Sukikara, Le chemin d'un lièvre de Lotte von Elsacker et L'oiseau et la feuille de Lena von Doren.
Oui, donc ce qu'on peut dire donc sur Le Petit Gruffalo, c'est avec la voix de Zabou Breitman, hein, dedans. Mm-hmm. Donc c'est un sommet de finesse et de tendresse, hein, charmant, jamais nié, parfait pour éduquer ces petits monstres. Donc une histoire simple, un peu d'humour et un cadre enchanteur. Donc c'est la recette d'un
bon film.
Non, divertissement.
Ah merde.
Donc ensuite, Le Temps de l'aventure, hein, de Jérôme Bonnin.
Oui, avec Emmanuel DeVos et Gabriel Byrne.
Oui, Aurélia Petit et puis je ne sais plus qui. Donc une journée, un train, deux inconnus. Des échanges de regards, le cœur qui bat. Oui, tu fais mal. Donc le regarder, partir, le perdre à tout jamais ou s'offrir au temps de l'aventure. Et si la vie d'Alix basculait. C'est d'un ennui mortel.
D'accord, ok, bon, c'est dit.
Non, ou un super film, ça sera vraiment au choix. Donc aussi cérébral que sensuel, temps de l'aventure est un joyau. C'est avec une grâce toute proche de l'apesanteur que le film demeure un des plus beaux portraits de femmes du cinéma français. Donc je pense, si vous avez aimé Mademoiselle Chambon, ce film est pour vous.
Oui, je pense que ça va être un peu le, hélas,
oui, le même style. Bah, pourquoi hélas, t'as pas aimé?
Non, mais c'est pas ça. Moi, je dirais que c'est un peu le problème, mais souvent, d'ailleurs, pour en revenir à New York, souvent quand les Américains parlent des films français, c'est pour eux, c'est des films ennuyeux, où il ne se passe rien.
Parce que t'aimes pas, c'est tout.
Mais j'ai pas dit que j'aimais pas.
Alors, la suite, c'est Cloud Atlas.
Ouais, donc de Lana et Andy Wachowski. Hein.
Il y a aussi Tom Tickner, le
Tickner.
Super compliqué. Donc il y a plein de monde là. Il y a
Tom Hanks,
hein.
Alberi, Jim Broadbent, Hugh Grant,
Suzanne Sarandon.
Voilà, Suzanne Sarandon et puis...
Jim Sturgess.
Oui.
D'accord. Donc c'est l'histoire d'Adam Ewing, hein, qui n'a rien à voir avec la famille de Dallas.
Oui, oui, tout à fait. Oui, puisque c'est avant.
Est un homme de loi américain embarqué à bord d'une goélette, hein, partie de Nouvelle-Zélande, et faisant route vers San Francisco, sa ville natale. Il n'a rien à voir avec Robert Frobisher, lequel, un siècle plus tard, se met au service d'un compositeur génial pour échapper à ses créanciers. Ni l'un ni l'autre ne pouvant connaître Louisa Ray, une journaliste d'investigation sur la piste d'un complot nucléaire dans la Californie des années 70. Ou Sonmi 451, un clone condamné à mort par un état situé dans le futur. Pourtant, si l'espace et le temps les séparaient, tous ces êtres participent d'un destin commun dont la signification se révèle peu à peu. Chaque vie est l'écho d'une autre et revient sans cesse, telle une phrase musicale qui se répète au fil d'innombrables variations. Donc le film est beau, voire un chef-d'œuvre d'art abstrait, c'est surtout de l'art dans ce film, hein. Ne laissant pas indifférent, quoi. Donc on sort émerveillé par la magie des images, des mots et les performances de tous les participants devant et derrière l'écran.
Oui, parce qu'il faut savoir que les acteurs jouent plusieurs personnages.
Une symphonie sur l'humanité, un film résolument moderne, hein, une odyssée ébouriffante de l'émancipation. Cette œuvre audacieuse nous propose une expérience cinématographique inédite, à la fois complexe et ludique. Ouais. Ouais, je pense que si tu t'endors 10 secondes, t'es paumé, quoi. Ça a l'air super compliqué, quoi.
Moi, je pense que c'est ça aussi, mais je pense que ça doit être un film assez unique. Et le problème avec les films uniques, c'est soit on aime, soit on déteste.
Oui, je pense que c'est ça, en fait.
Donc voilà, parce que c'est comme les Terrence
Malick. Il faut être prêt mentalement, quoi.
Oui, mais voilà, c'est ça.
Comme Le Temps de l'aventure.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, mais je pense que ça doit être un très beau film, mais voilà.
En tout cas, t'en prends plein les yeux, parce c'est vraiment de l'art. Tu croirais voir des tableaux à chaque seconde.
Oui, mais voilà, c'est ça. Donc, tu nous proposes... Qu'est-ce que tu nous proposes?
Eh ben, elle est là, elle arrive, elle est enfin là. Elle a signé pour nous. Donc, Jenna Doronet viendra nous parler d'un célèbre réalisateur qui a lancé donc les Cahiers du cinéma et la Nouvelle Vague, c'est-à-dire François Truffaut.
Ouais, ok. Donc, la semaine prochaine,
François Truffaut.
Eh bien, chers auditeurs...
Je le prends très mal. Chers...
Non, mais t'as raison.
Fait par l'Amérique.
Non, mais c'est pas faux, en plus. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous remercions de votre écoute et nous vous retrouvons la semaine prochaine sur le 107.5 à la même heure, moins une heure.
Et on sera à Paris.
Oui, voilà, c'est ça. On sera à Paris en direct
des années 60.
Voilà, c'est ça. Allez, ciao, ciao.
Au revoir.
Jean Bondurant.